Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans l'émission Famille, justice, enfance numéro 120, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la disparition de notre ami et compagnon Monsieur Claude Néris. Claude Néris dirigeait l'association SOS Exclusion Parentale. Claude était un ami, il s'est éteint le 21 septembre dernier, déçu d'une maladie qu'il n'a pu vaincre. C'était également un militant engagé dans la cause de la défense des droits de l'enfant, de la protection de l'enfance et de la famille de manière générale. Cette émission lui est particulièrement dédiée, nous aurons des témoignages de certains de ses compagnons de route. Nous parlerons un peu de sa vie et nous aurons les rediffusions de quelques interventions qu'il nous a livrées. Voici d'ailleurs notamment comment il se présentait et ce qu'il nous disait sur cette antenne en décembre 2019.
Claude, tu nous entends ?
Oui, j'entends parfaitement.
Ah, super. Tu es donc à l'antenne maintenant en direct. Donc, Monsieur Claude Néris, président de l'association SOS Exclusion Parentale. On se tutoie, comme dans la vraie vie ?
Oui, bien sûr.
Allez, c'est parti. Merci d'être venu. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, toi et ton association, pour nous ?
D'accord. Donc, je m'appelle Claude Néris. Je suis le président de l'association SOS Exclusion Parentale. À titre personnel, je suis prof d'économie et de droit. Et l'association a été fondée il y a 4 ans, en 2016, février 2016 exactement. Cette association compte aujourd'hui 47 000 followers sur Facebook, environ 150 adhérents. C'est sûr, nos adhésions, le montant de nos adhésions était assez élevé. On va le baisser cette année puisque notre système prévoyait une consultation juridique gratuite puisque nous avions un pôle juridique dirigé par une avocate qui était avocate au barreau de Paris, vice-présidente de l'association. On a décidé de fermer ce pôle juridique parce que c'était très onéreux et puis on s'inscrivait dans un domaine qui était le domaine classique des procédures judiciaires qui est assez problématique dans le sens où les procédures judiciaires sont longues, coûteuses et la décision est prise in fine par un juge qui n'est pas toujours au fait des éléments de la vie de famille. Les démarches que nous avons entreprises sont essentiellement des démarches de lobbying politique. Donc nous sommes intervenus à beaucoup de niveaux. Nous avons été reçus à l'Élysée, nous avons été reçus à la Cour de cassation, à la première présidence de la Cour de cassation, par le défenseur des droits, par différentes commissions de l'Assemblée. Nous avons rencontré beaucoup de députés, donc toujours dans la perspective de faire évoluer la législation en matière d'égalité parentale. Je pourrais dire aujourd'hui, le bilan, c'est que c'est très décevant, parce que nous avons été reçus par un tas de gens qui nous disent « c'est super, vous avez raison, c'est scandaleux, il faut changer les choses ». Et au final, on s'aperçoit que 4 ans après, rien ne bouge vraiment, parce que ce n'est pas une volonté politique.
Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu comme ça, quelles sont les demandes principales qui sont portées par l'association SOS Exclusion Parentale, demande à laquelle nous adhérons tous d'ailleurs ?
Alors je vais essayer de résumer. Alors, nous avons émis un certain nombre de propositions à la demande que nous avons élaborée à la demande d'un syndicat de magistrats pour ne pas citer CFO magistrats. Donc nous avons fait un certain nombre de propositions qui ont été remises au gouvernement, qui ont été remises à l'Élysée dans différents domaines. Donc au niveau de la réforme de l'autorité judiciaire, nous avons préconisé que tous les professionnels, les magistrats devaient être responsables de leurs actes, des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, que le Conseil supérieur de la magistrature devait être remanié et s'ouvrir à un collège de citoyens tirés au sort, qui permettrait effectivement aux citoyens d'avoir une vision sur la justice. Au niveau des devoirs régaliens de l'État, c'est vrai que l'État doit assurer la sécurité publique de la nation. À partir de là, nous avons demandé à ce que les délits, tous les délits, notamment les délits de non-représentation d'enfants, fassent l'objet non pas d'un classement sans suite, mais d'une instruction. Nous avons plus généralement demandé que la responsabilité personnelle des agents de l'État soit engagée lorsqu'ils commettent des fautes dans l'exercice de leurs fonctions. Je passe à une autre série de propositions, là qui concerne la réforme de la justice familiale. Nous avons préconisé une préparation à la parentalité, parce qu'il est évident que faire un enfant c'est facile, être parent c'est autre chose. Nous avons demandé également une formation pluridisciplinaire des magistrats et des intervenants sociaux, puisque les magistrats sont aujourd'hui formés en matière psychanalytique par des théories psychanalytiques anciennes, alors qu'il existe des méthodes de psychologie comportementaliste qui sont beaucoup plus efficientes et qui ont des effets concrets. À l'École nationale de la magistrature, les magistrats ne sont formés qu'à la première école, c'est-à-dire les théories psychanalytiques développées par Freud, Lacan, etc.
C'est-à-dire, en fait, l'enfant est proche de la mère et n'est qu'avec la mère, ce qui n'est pas forcément
nous avons également moderne, demandé le développement de mesures de résolution amiable des litiges. Donc ça, c'est effectivement la médiation, la conciliation, le droit collaboratif. Nous avons demandé une définition légale de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prévue par la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous avons demandé que soit favorisée légalement la coparentalité. Ça, c'est un combat que toutes les associations mènent, sauf évidemment cas de violence avérée. Nous avons demandé un tutorat des jeunes magistrats, parce que souvent les magistrats sortent de l'École nationale de magistrature très jeunes, sans expérience, donc un tutorat. C'est-à-dire qu'ils sont chapeautés par un magistrat plus ancien, ou alors qu'il y ait une collégialité au niveau des audiences. Nous avons demandé la limitation des délais de traitement des dossiers, puisqu'un dossier, le temps pour un enfant est très long, et là il s'agit en l'occurrence d'enfants. Nous avons demandé à ce que les dossiers de justice familiale et de protection de l'enfant soient limités à 3 mois, entre la saisine et la décision.
Alors là, j'ai fait une petite parenthèse. On va voir le tribunal familial. C'est grosso modo une audience par an. Le temps d'attente est à peu près de 12 à 13 mois, sauf les cas urgents où on va avoir une ONC éventuellement dans les 1 mois, mais rien ne sera résolu avant minimum 1 an, peut-être 3. À Bobigny, il me semble que les délais sont encore plus longs.
Tout à fait. Sur en région parisienne, les délais sont nettement plus longs. Or là, il s'agit tout de même de la vie de famille et
nettement
d'enfants.
Plus long, c'est-à-dire j'ai entendu dire qu'à Bobigny, il fallait 6 ans pour voir un jugement parfois.
Non, peut-être pas. Peut-être à Bobigny, mais enfin au tribunal de Paris, il faut, entre la saisine et l'audience, il se passe généralement 1 an et demi à 2 ans.
Oui, et quand l'enfant a 3-4 ans, comment on fait?
Tant pis pour l'enfant. Malheureusement, c'est bien le problème. C'est pour ça que nous avons demandé que ces délais qui concernent les juridictions familiales et la protection de l'enfance soient ramenés impérativement à 3 mois. Alors, il est évident que toutes ces propositions ont été faites au gouvernement, mais que, ça reste lettre morte. Nous avons également, dans le cadre de la saisine sur 3 mois, donc l'ouverture du dossier, le traitement du dossier sous 3 mois, nous avons demandé qu'il y ait une évaluation au terme de 6 mois des mesures prescrites par la juridiction, c'est-à-dire que 3 mois après, 3 mois pour l'audience, et 6 mois après, on évalue pour savoir s'il y a des correctifs à apporter ou pas. Nous avons demandé également la responsabilisation des parents au regard de leurs obligations parentales, parce que effectivement il y a des problèmes, on l'a évoqué tout à l'heure, au niveau des non-représentations d'enfants, mais il y a également des problèmes de délaissement de la part des pères. Il y a certains pères qui n'assument pas leur paternité. Ils vivent une autre vie et ils abandonnent leurs enfants. Et donc nous avons demandé effectivement qu'il y ait un système de sanctions pour les pères qui délaissent leurs enfants.
Oui, mais ça, il faut que cette chose-là existe si, lorsque nous demandons à participer à l'éducation de nos enfants, nous y avons l'accès. Les deux vont de pair, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
Tout à fait. Ensuite, nous avons demandé de recentraliser la protection de l'enfance, qui semble être le cas, qui semble se faire actuellement, puisqu'on a un secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Est-ce que c'est répercuté au niveau des départements, puis les conseils généraux? J'en sais rien. Enfin, c'est pas évident, parce que on a un discours politique, et puis finalement, les conseils généraux gèrent absolument tous les dossiers de protection de l'enfance. Et ça suppose effectivement, c'est notre demande, de réformer de fond en comble le service de protection de l'enfance. Parce que l'aide sociale à l'enfance fait des délégations de services publics à des associations qui sont créées pour la circonstance, et ce sont des associations qui s'appellent COSCET, Espoir, Olga Spitzer, etc., qui sont des associations qui gagnent énormément d'argent.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Claude est né en Afrique en 1952. Il a d'ailleurs dirigé les médias principaux et les télévisions du pays de Centrafrique et a côtoyé les présidents Omar Bongo et Bokassa durant sa jeunesse. Avant de quitter l'Afrique au début des années 80 et d'intégrer en métropole les services de police. Titulaire d'un DESS en administration des entreprises, en gestion des ressources humaines, il était également spécialiste en stratégie de fidélisation et en marketing relationnel. Il a participé à la création des premiers clubs de clientèle en France, Club Barbie, Mille Privilèges, Yves Rocher, etc. Et il a enseigné durant 20 années le droit, la gestion, le marketing, la communication en filière STGES, en post-bac. Il a également dispensé des cours au sein de l'ISG, l'IEV, l'ISCOM et aux personnels du cabinet du Premier ministre français. Admissible à l'agrégation d'économie de gestion et bi-admissible au concours de recrutement de magistrats. Il a également suivi un cycle préparatoire à l'ENA, CFPP, ministère des Finances. C'est intéressant de le dire parce qu'il était très humble et il n'en parlait jamais. Alors, j'ai également entre les mains son livre « Afrique, terre de haine » publié en 2021, où il raconte une partie de ses mémoires, ce qui l'aura amené, effectivement, depuis sa naissance, cette terre d'Afrique, jusqu'à la France et son engagement associatif que nous vous avons partagé souvent sur cette antenne. Voici d'ailleurs l'interview du vice-président de l'association SOS Exclusion Parentale, Olivier Guerrier, un de ses amis qui nous parle de Claude. RLP 102.3, aujourd'hui avec Olivier Guerrier. Olivier Guerrier, vice-président de l'association SOS Exclusion Parentale, qui travaillait beaucoup avec Claude. Claude Néris, Olivier, bonjour, tu vas bien?
Oui, bonjour Stéphane, merci beaucoup de cette initiative qui évidemment est très touchante pour les gens qui ont connu Claude.
Et donc toi Olivier, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais?
Alors c'est assez lointain par rapport à ce qui nous réunit. Moi je suis professeur d'université ici à Toulouse, en littérature française plus spécifiquement, voilà.
Comment est-ce que tu as connu Claude et que faisais-tu avec lui?
Alors, c'est par le biais de justement des réseaux parentaux. Moi, j'ai commencé à travailler plutôt vers Montpellier, dans le sud de la France. Et puis, via Facebook, là où intervenait plutôt Claude avec ses différentes associations successives, ben, on a été amené à prendre un peu contact un peu par hasard et à se rapprocher, étant donné que le périmètre qui l'intéressait, l'exclusion parentale, croisait des choses qui m'avaient été assez chères et assez proches, comme syndrome d'aliénation parentale, comme on dit entre guillemets, et exclusion d'une manière plus générale. Voilà.
Je crois qu'avec lui, vous avez fait ensuite l'intervention associative. Vous avez été reçu, me semble-t-il, par des personnalités à divers endroits.
Oui, alors moi j'étais pas toujours présent parce que j'habite Toulouse, donc j'étais un peu loin, mais bon, de toute façon ça arrangeait toujours pour qu'il y ait un petit contingent de l'association qui soit présenté. Moi-même, avec lui, on est allé à l'Assemblée nationale où on a vu des gens qui étaient, disons, qui étaient susceptibles de s'intéresser aux problèmes de famille. À vrai dire, c'était pas toujours très très réussi, on peut dire, parce que ça tombait un peu dans l'eau. Je dirais que notre activité se centrait plus sur ce qu'on pouvait faire nous-mêmes dans le cadre de l'association et puis des réseaux sociaux.
D'accord. Tu te souviens de Claude d'une personne, comment tu pourrais le décrire?
Quelqu'un d'extrêmement fort, extrêmement droit, avec des convictions très ancrées, ce qui lui valait pas toujours des amis, mais c'est le propre des gens qui ont de la consistance. Mais en plus, bon, il cristallisait un certain nombre de critiques extrêmement malvenues, et il en souffrait d'ailleurs de la part de certaines associations féministes radicales qui avaient assimilé finalement l'exclusion parentale à une défense uniquement paternelle, même s'il est vrai que la majeure partie ou disons une bonne partie des adhérents étaient plutôt des pères, nous avions aussi des femmes jusque dans le bureau de l'association, puisque c'est un phénomène qui n'a plus vraiment de sexe aujourd'hui, même si bien évidemment il y a un pourcentage, mais ça à la limite c'est presque secondaire aujourd'hui, voilà.
Et est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur Claude et votre relation?
Oui, c'est que mon expérience des réseaux de parentalité m'a fait rencontrer quand même pas mal de gens et forcément, les gens qui étaient très investis avaient toujours connu des histoires assez dramatiques, tragiques et étaient en plein dedans le plus souvent. C'était mon cas d'ailleurs aussi. Et Claude était pratiquement la seule personne que je connaissais qui, lui, avait été affecté par ça, mais d'une manière un peu plus légère puisqu'il avait ses enfants pratiquement en garde alternée, ce qui montre au fond que son implication dépassait le simple affect pour aller vers une vraie conviction civique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre engagement, bah, forcément, touchait le politique, voulait vraiment s'impliquer là-dedans à plein et a aidé beaucoup de gens de ce point de vue-là, gracieusement, peut-on dire. Voilà.
Ouais, c'est un militant qui voulait rendre le monde meilleur. Ouais.
Exactement.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Claude s'exprimait également sur des sujets d'actualité, comme voici par exemple son intervention lors de la nomination du garde des Sceaux, maître Éric Dupond-Moretti. Monsieur Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale sur RLP 102.3 qui est avec nous. Claude, ça va?
Oui, très bien, et toi?
Oui, très bien. Nous avons eu récemment une nomination pour un nouveau garde des Sceaux, à la personne de Monsieur Éric Dupond-Moretti. Quel est ton avis sur cette nomination et est-ce que c'est bon pour notre cause?
Donc, concernant la nomination de Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice garde des Sceaux, j'appréhende cette nomination sur la base de deux versants. Le premier sur les réformes, le deuxième sur la position conflictuelle. Au niveau des réformes, il a pris deux dispositions qui ont également été demandées par nous. C'est notamment la séparation du parquet de l'exécutif. Et la deuxième position, c'est la responsabilisation des magistrats sur les conséquences de leurs décisions. au titre de la position conflictuelle. Il s'est souvent attaqué de front au corps judiciaire, ce qui a soulevé la bronca des magistrats, notamment par une déclaration d'un syndicat qui a parlé d'une véritable déclaration de guerre. C'est également la bronca des féministes, puisqu'il a eu l'occasion de prendre des positions et faire des déclarations contre notamment le mouvement MeToo. Je considère, pour ce qui concerne cette nomination, que déjà il vient d'être nommé. C'est un homme qui a du charisme. Il a l'avantage de pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière et il convient tout simplement d'attendre pour voir ce qu'il va faire.
Eh bien, nous suivrons tout cela. À bientôt, Claude.
Salut, à bientôt.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Claude Néris. Claude Néris, le président de l'association SOS Exclusion Parentale, que vous connaissiez bien, juriste, ancien policier, ancien enseignant. Claude, tu es avec nous?
Oui, tout à fait.
Bonjour, je crois que tu as entendu, comme nous, l'interview de M. Éric Dupond-Moretti la semaine dernière sur BFM durant une heure, et je crois que tu avais quelques idées, quelques mots à en dire à propos. Vas-y, dis-nous.
Oui, tout à fait. Sur la forme, j'ai trouvé le ministre de la Justice consternant de suffisance et d'arrogance, plein de venin à cracher un peu sur tout le monde, et méprisant même vis-à-vis des journalistes. Sur le fond, son projet de loi sur la confiance dans la justice démontre une approche très superficielle de la justice familiale. Il se borne en effet à constater que dans un procès civil, celui par exemple qui obtient la garde d'un enfant va considérer que la justice est de bonne qualité et inversement que celui qui ne l'obtient pas va considérer qu'elle fonctionne mal. Sa conclusion, c'est contre ces mécontents, là vous ne pouvez jamais rien faire. Il n'émet dans ses propos même pas le soupçon, une seconde, l'hypothèse que la justice puisse se tromper. Il déclare de manière péremptoire que grâce à lui, la justice va plus vite. C'est juste comique. Pour ce qui concerne le filmage des audiences, qui est l'une des mesures phares du projet de loi, il apparaît enfin que l'aspect opérationnel n'est pas maîtrisé. La vraie question est à quoi vont servir ces filmages s'ils ne servent pas à contrôler le bon fonctionnement de l'institution. Rappelons que le projet de loi, c'est confiance dans la justice. Donc, qui va installer les caméras? Qui va assurer la conservation des films? Il annonce dans son intervention une chaîne de télévision qui n'est pas encore créée ou qui va être sollicitée. C'est juste inquiétant. En fait, la présentation du projet de loi par le ministre a surtout démontré son obscurité. Je parle de l'obscurité du projet de loi. C'est pour moi un brouillon totalement inachevé. Voilà.
Bon, eh ben je vois que tu en penses autant de bien que nous. Merci.
De rien, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
L'engagement associatif de Claude et de son association SOS Exclusion Parentale était effectivement axé sur la problématique de la défense des droits parentaux. Mais Claude était également très touché par le problème que nous avions du traitement de l'aide sociale à l'enfance de manière générale en France, avec malheureusement tous ces dysfonctionnements et parfois cette exploitation un peu mercantile et tout ce qui est améliorable et que toutes les personnes de bonne volonté devraient aider à améliorer afin que tout ceci se passe mieux. Voici notamment ce qu'il en disait lors d'un podcast que nous avions fait en direct sur Facebook il y a quelques années.
Il y a un autre problème soulevé tout à l'heure par Stéphane. C'est vrai que le problème des enquêtes sociales réalisées par des organismes délégués par l'ASE, hein, ce sont souvent les associations, alors on les connaît, OXTE, Expoir, etc., qui interviennent dans le cadre de ces mesures d'investigation judiciaire notamment, sont souvent juges et parties, c'est-à-dire qu'ils vont préconiser des solutions qui souvent sont orientées vers une aggravation de la situation qui leur permet de récupérer les placements dans les foyers ou sur les familles d'accueil. Donc il y a quand même un business qui est derrière, qui est latent. Et puis en plus, il y a un problème de formation. Lorsque on demande à un éducateur, même éducateur spécialisé, de se prononcer sur le comportement d'un parent par rapport à ses enfants et que cet éducateur, il a 20 ans, je suis désolé, mais il y a un problème. Quand l'éducateur, en plus, c'est un éducateur spécialisé, parce que dans certaines structures, vous avez un éducateur diplômé et puis vous avez 10 personnes qui sont pas du tout diplômées. On regarde au niveau de ces structures, elles sont en recrutement permanence. Il y a un turnover énorme parce que déjà, ils les payent pas. Donc, il y a un turnover énorme et puis vous retrouvez avec des gens qui vont se prononcer sur monsieur a telle relation avec son enfant, c'est pas normal, ou madame a telle relation avec son enfant, C'est pas normal. C'est quand même. Et alors, au milieu, on va vous faire intervenir. Moi, j'ai eu le cas, hein, à titre personnel, deux psychiatres. On fait intervenir un psychiatre à la retraite qui est complètement décati dans son coin. On le sort, on le dépoussière, on vous l'amène, et puis lui, il va vous pondre un diagnostic rapide comme ça, où il vous aura entendu pendant 20 minutes, et puis il va pondre un diagnostic. Et le juge se base sur ce genre d'expertise qui sont les expertises bon marché pour dire c'est la vérité absolue. C'est un expert qui s'est prononcé, c'est un service expert qui se sont prononcés, et en fait, ce service n'est pas du tout expert. Alors, on a un secrétaire d'État qui est Monsieur Taquet, qui normalement doit s'occuper de ça. La réforme de l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, parce que l'aide sociale à l'enfance, elle intervient au niveau des placements, mais elle intervient souvent au niveau du JAF. Lorsqu'une mesure d'investigation judiciaire est confiée à ces organisations, il faudra déjà peut-être voir la compétence des gens qui mènent ces mesures.
Claude fait également partie de ceux qui se sont intéressés à ce que l'on appelle l'aliénation parentale, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants qui parfois sont montés contre un parent par l'autre parent. C'est un sujet polémique que plusieurs pays du monde ont accepté d'affronter sans sourciller, mais qui est encore chez nous au stade de l'analyse et qui n'est pas totalement pris en compte dans la réalité des séparations.
Claude Néris, aujourd'hui de retour avec nous, le président de l'association SOS Exclusion Parentale, qui vient nous mettre un petit bémol sur l'utilisation du terme SAP. Claude, quand vas-tu et vas-y.
Je vais bien, oui, effectivement, je voulais apporter un bémol sur l'utilisation du terme SAP, c'est-à-dire syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que ce syndrome a été inventé par Richard Gardner, qui est un psychiatre américain, qui a on est l'utilisation de ce syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que Richard Gardner, diplômé en médecine, est un psychiatre et que ce psychiatre est intervenu notamment dans différentes prises de position par rapport à la pédophilie dans certains écrits et ce qui fait que le syndrome d'aliénation parentale a fait l'objet de beaucoup de controverses, notamment au niveau judiciaire. Et si certains le reconnaissent comme tel, comme étant un syndrome, il faut savoir que ce syndrome n'a jamais été intégré dans la classification DSM-5 des pathologies psychiatriques. Certains psychiatres, comme le docteur Paul Bensoussan, qui est expert auprès de la Cour de cassation, a eu beaucoup de soucis avec les organisations pro-féministes, justement parce qu'ils défendaient le syndrome d'aliénation parentale. Donc, le terme syndrome d'aliénation parentale est vraiment problématique et est rejeté par les juridictions. Il vaut mieux parler d'aliénation parentale, d'exclusion parentale, d'emprise, de tout ce qu'on veut, mais le terme syndrome ne doit absolument pas être utilisé parce que il crée une relation épidermique au niveau des avocats, de beaucoup d'avocats et de beaucoup de magistrats. Voilà ce que je voulais dire en la matière.
Ben voilà, c'est précisé. L'aliénation parentale, effectivement, existe, mais le terme SAP, malheureusement, est devenu mal connoté, donc il faut l'éviter.
Voilà.
Merci.
De rien. À plus.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
À l'heure de tout ce travail, de tout ce militantisme, il restera heureusement notamment la page Facebook de l'association qui a plus de 75 000 abonnés. Voici notamment le témoignage de Aïcha, la community manager de cette page Facebook qui continue de donner vie. Aïcha avec nous sur RLP. RLP 102.3, aujourd'hui avec Aïcha. Aïcha, l'administratrice de la page Facebook de SOS Exclusion Parentale, page qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, me semble-t-il. Aïcha, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, je vais bien, merci, et vous?
Alors, c'est donc vous qui vous occupez de cette page-là, donc vous travaillez avec Claude, travaillez IEZ au passé avec Claude. Comment est-ce que vous l'aviez rencontré?
En fait, je l'ai connu grâce à sa page Facebook, SOS Exclusion Parentale.
Cette page Facebook, elle a combien d'abonnés actuellement?
Elle a un peu plus de 70 300 abonnés.
Oui, vous voyez, vous postez, c'est vous qui postez tous les jours alors?
Je poste tous les jours. En fait, il y a des périodes où je peux programmer moi-même mes publications et des fois, mais je le fais le jour même en fait.
Vous vous souvenez de Claude comment? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur lui? Si vous pouviez parler de lui, qu'est-ce que vous pourriez dire de lui?
Alors, c'est quelqu'un qui est très gentil, très agréable, qui est bienveillant. C'est quelqu'un qui est très humain, qui aide tout le monde, en fait. Hein. C'est une belle personne. Il est aimé de tous et je garde un très, très bon souvenir de lui.
Vous avez participé à l'association Exclusion Parentale?
J'avais adhéré à son association, oui.
D'accord.
Mais écoutez, moi j'ai une grande pensée aujourd'hui pour ses proches et surtout pour ses enfants qu'il aimait plus que tout. À chaque fois qu'il en parlait, c'était beaucoup avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il s'organisait pour être constamment disponible les week-ends et se consacrer exclusivement à ses deux derniers enfants. Donc mes pensées vont vers sa famille.
D'accord. Est-ce que la page Facebook va continuer ?
Très bonne question. Très bonne question. Le problème, c'est que je m'étais engagée à gérer sa page et Claude y tenait énormément. Le problème, c'est qu'il me disait tout le temps qu'il était débordé, qu'il n'arrivait pas à avoir le temps pour accomplir cette fonction. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à lever le pied et à tout arrêter parce que je me suis investie, parce que je me suis engagée. Et bien, je vais continuer jusque quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ce qui me lie à Claude, en fait, aujourd'hui.
Et ce sera une façon de le garder un peu parmi nous.
Je pense, oui.
Merci Aïcha, merci beaucoup.
Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Voilà, c'était donc notre hommage à un compagnon de route. Claude, mon ami, nos discussions me manquent. Mes pensées vont aujourd'hui à tes proches, à ta famille, à tes deux enfants en bas âge qui t'ont vu partir en à peine quelques semaines. Je sais que ton combat n'a pas été aisé, mais c'est le lot des porteurs de lumière de justement porter la lumière dans l'obscurité et personne ne vient féliciter les porteurs de lumière de porter la lumière. Car après tout, ne pas lutter contre le mal, n'est-ce pas en quelque sorte encourager le mal ? Et donc, lorsque nous le pouvons, il faut tenter d'avoir un certain militantisme pour des causes nobles. Un militantisme qui l'a amené à avoir un regard assez noir tout de même sur la politique générale de la famille en France contemporaine.
Il y a quand même une volonté de que ces moyens s'amenuisent de jour en jour. Toujours, je ne suis pas dans le complotisme, mais je vois les pressions qui sont faites par des associations néo-féministes notamment pour la suppression de la non-représentation d'enfants. Etc. Il y a vraiment une volonté, je pense, de porter atteinte. Alors c'est peut-être que je vais trop loin dans ce mode de raisonnement, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une volonté de porter atteinte à la cellule familiale et une volonté de diviser. Ça, je le ressens comme ça, une volonté de diviser. On tape d'abord sur le maillon fort qui est le père. Ensuite, la femme se retrouve dans une situation souvent précaire parce qu'une famille monoparentale, ben c'est un problème, hein, ça la précarise. Et donc, ça permet effectivement d'avoir la mainmise sur cette population qui est précaire et dont on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça, alors peut-être que c'est une approche complotiste, mais bon, les faits me démontrent, je comprends pas. Je comprends pas quel est l'objectif, pourquoi on ne met pas en place, alors qu'effectivement, il y a des discours depuis des dizaines d'années sur l'humanisme qui doit régner par rapport au traitement de la famille, et on fait tout l'inverse.